Merci bien, vous êtes une équipe formidable. Il y a de la qualité dans cette église, de l'accueil au café, en passant par ceux qui prient, qui président et qui louent. Vous êtes dans une thématique, car Dieu a tant aimé le monde, et c'est pour ça que j'ai pris ce verset très connu. Et je découvre que, bien sûr, vous avez choisi le même. C'est assez légitime parce que c'est, pour beaucoup de chrétiens, c'est le meilleur résumé de l'évangile. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Aimer le monde, c'est le titre d'aujourd'hui, parce que Dieu aime le monde. Nous sommes invités à aimer le monde parce que Dieu aime le monde. Et c'est vrai que c'est un magnifique résumé que nous avons là dans ce verset. Et une question qui peut nous concerner, c'est de savoir où Dieu est à l'œuvre déjà dans ton monde à toi. Où est-ce que Dieu est à l'œuvre dans ton monde à toi? C'est une question intéressante à se poser. Où es-tu à l'œuvre, Jésus, dans mon monde? On peut poser cette question à Dieu. Où est-ce que Dieu, tu es à l'œuvre dans mon monde à moi pour manifester l'amour de Dieu? J'ai vécu récemment une semaine de partage de l'évangile dans la région du pied du Jura et ça m'a bien lancé dans ce sujet. J'ai trouvé que c'était à la fois défiant et en même temps exaltant. De manifester l'amour de Dieu avec des personnes qui, en se levant le matin, savaient peut-être même pas que Dieu existait. Et on arrive et on entre vraiment en contact avec eux pour manifester quelque chose du royaume de Dieu. En écoutant la louange, je me disais que c'était un bon résumé, ce que je voulais vous partager, que ce chant « Grâce infinie » me ramenant de la mort à la vie. Et permettre de manifester Dieu au travers de nos fragilités, que ce soit ma prière, que je puisse servir Dieu pour permettre à d'autres de découvrir l'amour de Dieu avec mes fragilités. Et comment? Eh bien, essentiellement, c'est de la théologie, on pourrait dire. Il n'y a pas de méthode, c'est fonder notre vie, notre approche des autres par la parole vraie, par la vérité. Une parole vraie qui ouvre l'autre à l'invisible, à Jésus-Christ, une parole vraie qui va ouvrir l'autre à l'invisible, à la foi, et puis l'accompagner là-dedans. Vendredi, on avait une fête qu'on appelle le Noël des jeunes, c'est des amis que je connais depuis l'école, et puis ça s'est un peu élargi, puis on ne s'était pas vus depuis 4-5 ans. Alors c'était sympa d'arriver, les accueillir avec un vin chaud, et puis un peu de boisson pétillante, et puis dire « ouais, ça fait plaisir de te voir ». Et à un moment donné, j'ai pris un cadre où dedans il y a une prière et j'ai fait cette prière-là pour introduire le repas qu'on avait ensemble. Et cette prière, ça dit « Notre Père ». J'ai dit « Notre Père, j'ai tout remis entre tes mains parce qu'entre tes mains, tout est bien ». Alors, ils ne sont pas tous chrétiens, largement pas. Mais voilà, ils sont dans ma maison, alors je prie. Et puis c'était intéressant, les discussions. C'était une parole vraie, d'accord? Et cette parole vraie a ouvert des discussions intéressantes. Quelqu'un est venu vers moi en disant « Mais... on dit père, mais où est la féminité de Dieu ? » Vous voyez, des questions des fois assez carabinées. Ou quelqu'un m'a dit « Donne-moi cette prière, je veux la photocopier !» En fait, par ces quelques mots, je leur ai donné accès à l'invisible, à Dieu, à l'amour de Dieu, à la réalité d'un Dieu qu'on peut appeler père. Et après, il y a un mouvement, il y a quelque chose qui n'est pas visible, mais que je pouvais mesurer dans leur questionnement, qui est surgi de comme ça, « pas, pas !» C'était la vie de Dieu qui se manifestait à eux dans les questions qui les habitent. Alors si on avance dans ce verset, on voit, ça fait le plan du message, que c'est assez dense comme passage. Il y a, en effet, il y a tout un contexte qu'on verra après. Et Dieu a tant aimé le monde, c'est la motivation de Dieu, c'est ce qui a motivé son action, c'est son amour pour le monde. Il a donné son Fils. Ça, c'est le modèle, c'est comment il a agi, et avec un but, que quiconque croit en lui, c'est le moyen, c'est par la foi qu'on a accès à la vie éternelle, qui est notre destinée. Et par contre, il y a un danger, c'est que l'homme ne périsse pas. Si on commence avec le contexte, il y a un lien entre ce contexte avec ce danger dont on va parler. Dans le contexte, avant Jean 3, 16, il y a 14-15, où il a un parallèle avec l'Ancien Testament. Tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Après que Dieu a miraculeusement délivré les Israélites de l'esclavage en Égypte, les Israélites se sont rebellés contre lui et ont passé 40 ans à errer dans le désert. Puis, alors que les Israélites approchaient de la terre que Dieu avait choisie pour eux, les Israélites parlèrent à nouveau contre Dieu et contre Moïse, leur chef. Dieu envoya des serpents venimeux mordre ce peuple rebelle. Confessant qu'il avait tort, le peuple demanda à Moïse de prier Dieu pour qu'il éloigne les serpents. Conformément aux indications de Dieu, Moïse accrocha un serpent d'airain sur une perche, et quiconque avait été mortellement mordu par un serpent et regardait la perche conservait la vie. C'est d'ailleurs devenu le symbole qu'on voit s'afficher ici des pharmacies, avec un serpent, voilà, qui est là. Et en regardant à cette perche, eh ben, il y a la guérison. Dieu offrit avec compassion à ces gens le moyen d'échapper aux conséquences de leur péché. De même, et c'est là notre verset, de même Jésus sera élevé sur une croix, et tous ceux qui regarderont à Jésus avec le regard de la foi seront sauvés. Il y a une simplicité de la foi qui sauve. Ici, nous sommes en présence d'un danger, que l'homme périsse, car il y a un jugement. À la suite du verset 16, 17-18, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu que l'homme périsse. C'est vrai qu'il y a un danger que l'homme périsse, car il y a un jugement. Restant sous le jugement de Dieu, tout le monde va périr. Mais comme je le disais avant, ce n'est pas la volonté de Dieu. Jésus, en proclamant le but miséricordieux de sa venue, ne nie pas le jugement dernier qui est réservé au monde pour la fin des temps. Mais celui qui croit en Jésus n'est pas jugé. Et c'est la bonne nouvelle. Dieu ainsi nous offre la vie à la place de la mort. Lorsqu'on met en avant le besoin d'être réconcilié avec Dieu, il s'agit de vie ou de mort. Dans cette période de Noël, quel est le sujet de nos conversations ? Le vendredi soir, on fêtait le Noël des jeunes. Moi, j'aurais pu parler énormément de tous les produits alcoolisés qui étaient là, parce que je suis un passionné de vin. Mais je vois qu'on a vite fait, ou j'ai vite fait en tout cas, que les conversations soient pleines de sapins de Noël et de décorations et de toutes ces préoccupations de fin d'année. Et c'est une première question à se poser. Quel est l'objet de mes conversations dans cette période de Noël ? Tout comme le monde parle de guirlandes et de sapins de Noël, mais omet bien souvent la signification de la naissance du Christ. J'ai imaginé une histoire d'un homme qui attend le Nyon Saint-Sergue et une personne s'en couble et tombe devant le train. L'homme se précipite pour pousser la personne promise à une mort certaine, de manière à ce que le train ne le percute pas. Et cet homme n'a pas pleinement le temps de se dégager lui-même et se fait percuter par le train. Le rescapé visite le sauveteur à l'hôpital où il a passé plusieurs jours aux soins intensifs. Le sauveteur offre un chocolat à son visiteur. Au moment où le visiteur quitte l'hôpital, le rescapé rencontre un ami qui lui demande d'où il vient. Avec réticence, le rescapé finit par répondre « Je viens d'aller voir un ami qui m'a donné un chocolat. » Vous ne trouvez pas quelque chose cloche dans cette réponse ? Après tout, cet homme doit sa vie à celui qui se rétablit à l'hôpital. Qu'est-ce qu'un chocolat comparé au fait que l'homme a failli perdre sa vie pour le sauver ? Lorsqu'on prêche l'Évangile, nous courons le risque de mettre l'accent sur les bénédictions additionnelles qui résultent de la conversion au Christ, sur la joie, la guérison, l'abondance, la paix, plutôt sur le fait essentiel, à savoir le Christ a souffert, il est mort et il est ressuscité pour que nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie. Parler du péché ouvre la voie qui mène à la croix. Et c'est ce péché qui fait que nous sommes sous un jugement, que nous sommes sous la colère de Dieu, et qui fait que nous allons à la mort. Car je n'ai pas estimé, c'est Paul qui le dit, je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Dans un certain sens, quand on entend cela, on se dit, mais à quoi bon parler du péché ? Parlons de Jésus-Christ, ça suffit largement. Le grand John Wesley, d'ailleurs, dans sa vieillesse, passait moins de temps à dénoncer le péché et plus de temps à annoncer Christ. Quelque chose dans la personne de Jésus-Christ crée la foi, comme dans mon anecdote du vendredi soir, en disant simplement, « Père, j'ai tout remis entre tes mains, car entre tes mains tout est bien, j'ai rien dit d'autre. » Mais c'est comme si ça ouvert le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit est suffisamment puissant pour convaincre les gens de vérité et les amener à un chemin de réflexion sur ce qu'ils ne voient pas et les mettre en chemin dans leur salut. En même temps, c'est Jésus-Christ crucifié dont on parle. Or, parler du péché ouvre la voie qui mène à la croix. Il nous faut donc travailler à communiquer à propos de cette question du péché. Quel levier avons-nous aujourd'hui pour rejoindre les hommes et les femmes de ce siècle sur cette question du péché ? Et ceci sans renforcer les images moralisatrices de Dieu et de l'Église. Ça veut dire parler du péché à des personnes qui n'ont pas commis de crime, parler du péché à des personnes qui ont peut-être une éthique remarquable, une certaine éthique. Alors, comment parler du péché ? J'aimerais vous proposer quelques pistes. Il ne s'agit pas forcément de parler du péché directement, mais de parler plutôt à la personne des conséquences de son problème, des conséquences du péché. Plutôt que de parler du péché ou du problème, mais plutôt parler des conséquences du péché. Du coup, c'est important, je trouve, de poser des questions. Que se passe-t-il dans ta vie ? Et aller sur les faits, qu'est-ce que la personne vit ? Et poser des questions, comment vois-tu les choses ? Qu'est-ce que tu en dis ? Écouter l'autre. Et cela permet d'accueillir le point de vue de l'autre. Et quand on accueille le point de vue de l'autre, on peut lui poser la question, est-ce qu'il est intéressé à entendre un autre point de vue ? Et on peut lui demander la permission de l'exposer. Es-tu d'accord, je te partage mon point de vue. Et on peut lui demander à nouveau ce qu'il en pense et l'écouter. Le but, c'est de faire entendre un autre point de vue à l'autre, qui est pour l'instant hors de sa portée, soit par ignorance, soit par déni. Et comme je disais avant, on a cette privilège par la parole, par une parole de vie, adapté à la réalité de l'autre, à ses faits, à ses circonstances, de lui ouvrir à quelque chose qui est invisible pour lui en ce moment même et qui va pouvoir saisir. Voilà une piste qui peut lui permettre de comprendre de quoi on parle quand on parle du péché. On parle plutôt des conséquences qu'il peut mesurer dans son vécu. Si je songe au monde actuel, je pense par exemple au mot « crise ». Les gens parlent beaucoup de crise, crise digitale, crise environnementale, crise sociétale, crise migratoire, crise économique, crise familiale. Enfin, vous pouvez y aller, hein, je veux dire. C'est des faits. Qu'est-ce que t'en penses, je veux dire, ouais. Après, les gens vivent des crises aussi au milieu de cela. Pourquoi Dieu donne un remède ? On arrive sur la question du pourquoi, et qui est en lien avec cette vie éternelle. Qu'est-ce qui motive Dieu à nous donner ce remède ? Il y a cet amour de Dieu qui a donné son Fils. Qui Dieu aime ? Dieu aime le monde. Alors le monde, c'est le mot cosmos. Et c'est ce cosmos, ça désigne ceux qui habitent le monde, l'humanité en général, les gens. Dieu aime les gens, en fait. Dieu a tellement aimé les gens. L'humanité est caractérisée par la méchanceté. Elle ne connaît ni Dieu, ni son envoyé, le Christ. L'humanité n'est pas mauvaise en elle-même, elle n'est pas mauvaise de nature, mais Il s'est détourné, l'humanité s'est détournée de son Créateur et s'est rendue esclave de puissances mauvaises. La haine du monde contre Jésus-Christ, pourtant venu pour le sauver, montre cette haine du monde, qu'il est devenu méchant par nature. Pourtant, Dieu aime le monde au point qu'il envoie son Fils pour sauver ce monde. Et il faut beaucoup d'amour pour aimer quelqu'un qui ne nous aime pas, d'accord ? Pendant la semaine que j'ai vécu la dévangélisation, j'ai croisé un voisin qui est, on dirait, il a un caractère à la Jacob, pour parler poliment. Mais cache, ça veut dire qu'il a un caractère de cochon, en fait. Ouais. Et nous, on est les gens les plus sympathiques du monde avec ma femme, mais il ne nous parle plus maintenant. Il a la peine à dire bonjour. Et il suffit pour ça d'être pas de son avis. Et puis c'est bon, on est méchant. Et moi, je l'ai appelé pour savoir s'il voulait une visite, pour que je lui dise que Dieu l'aime et puis qu'il a un projet génial pour sa vie. Et puis, mais qu'est-ce que vous voulez? Et puis, bon, il m'a renvoyé. C'est ce qu'on appelle un râteau ou une veste, ça dépend. Puis bon, voilà, on a terminé aussi bien que possible le téléphone. Puis après, je cheminais avec ça. Et puis Dieu me disait, mais tu vois, moi, je suis venu dans le monde et j'ai aimé même ceux qui me persécutent ou même ceux qui ne m'aiment pas. Et je t'invite à aimer cette personne aussi. Puis je disais, ouais, mais ouais, téléphone-lui de nouveau pour lui dire que tu l'aimes. Je dis, attends, ça va être un peu délicat, ça. Et puis, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais je ne peux pas dire que j'aime Jacob, quoi. Et puis, oui, mais tu peux dire que tu aimes, pas son comportement, mais tu peux dire que tu aimes sa personne, en fait. Et j'ai dit, ok, alors je vais faire ça. Alors je lui ai téléphoné, et puis je lui ai dit, voilà, je voulais lui dire que je l'appréciais comme personne. Et puis ça a ouvert tout un partage où j'ai pu aller explorer sa zone de souffrance. Quel était le problème, au fond? Et j'ai découvert que le problème, il était... Ouais, c'était un homme qui avait une capacité à être vrai, effectivement. Et c'est vrai que ce n'est pas facile d'aimer quelqu'un qui ne nous aime pas, mais c'est pourtant notre Père, Dieu, ce qu'il a fait, il nous a aimés. Et il est fidèle en cela. Dieu a tant aimé le monde. Et littéralement en grec, la phrase, ça fait tellement, tellement, ça commence par tellement, tellement en effet a aimé Dieu le monde. Des fois on entend, mais tellement, tellement, tellement aimé le monde. Tellement, mais c'est quoi tellement? C'est qu'il a aimé même ceux qu'il n'aime pas. Et ça, c'est un sacré défi quand nous, on est confrontés à ça. Mais ce n'est pas un problème. En tout cas, ce n'est pas un problème pour Dieu. Donc, notre motivation pour le témoignage, c'est l'amour de Dieu le Père. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Est-ce que vous avez déjà été détesté par quelqu'un? Mais je peux vous dire que c'est salutaire à quelque part. C'est salutaire parce que c'est une occasion d'explorer quelle est la nature de mon amour. Est-ce un amour qui est surnaturel ou c'est un amour mes propres forces? C'est vrai qu'on a des sacrées capacités et c'est important d'avoir une force d'âme. Mais quelle est ma force d'esprit? Et là c'est le test du feu. Hein. Donc notre motivation, c'est l'amour de Dieu le Père. C'est un amour d'en haut, c'est un amour surnaturel, un amour d'une puissance qui dépasse ma capacité personnelle. Jésus a montré que notre Dieu est un Dieu qui aime. Notre compassion pour les autres vient du cœur de Dieu. Ça ne vient pas de nos propres sources, je dirais. Quand Jésus a été critiqué parce qu'il était avec des pêcheurs, il a raconté trois histoires. Il a raconté l'histoire de la brebis perdue, il a raconté la pièce perdue, il a raconté le fils perdu. En fait, il a dit, il nous a invités à chercher sans cesse les personnes qui étaient perdues, comme lui a fait. Chercher ceux qui sont perdus. Et puis quand on trouve une personne qui est perdue, on se réjouit, comme le Père. Parce qu'il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent. Dieu est comme cette personne qui cherche, comme ce Père qui attend et qui accueille l'enfant perdu. Dieu aime les gens, et nous aussi, nous voulons les aimer. Dieu a à cœur les perdus, et il les a trouvés. Dieu aime le sauvé, et il aime le pécheur. L'amour de Dieu doit être au centre de ce que l'on fait et surtout de l'évangélisation. Ça commence par là, même jusqu'à aimer ses ennemis. Ça, c'est pour ça qu'on passe du temps avec des gens qui sont perdus, comme nous on l'a été. Et ça veut dire vivre dans le monde, à ne pas confondre à aimer le monde. Et donc, quand je vis dans le monde, je me pose cette question que je vous posais au début. Où es-tu à l'œuvre, Jésus, dans mon monde, dans mes contacts? De cette manière, je ne suis pas en situation d'aimer le monde, mais je suis dans le monde et je peux manifester cet amour du Père, cet amour d'en haut. Ne pas aimer le monde, c'est de veiller à ne pas réaliser ses ambitions à un niveau purement humain. C'est parce que là, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'on se perd soi-même et on n'a finalement rien gagné. C'est d'ailleurs une question qu'on peut poser aussi en disant, des gens ont gagné le monde réellement. On dit, ben alors, es-tu heureux? Qu'est-ce que ça t'amène? Qu'est-ce que ça nous amène si on se perd, d'accord? Et nous, des fois, je vois très bien, je me dis, je suis dans cette situation où j'aime le monde parce que je suis en train un peu de me perdre dans mes discussions. J'ai perdu de vue pourquoi je suis là. Où j'ai perdu de vue finalement où est-ce que Dieu est à l'œuvre dans mon monde, où est-ce qu'il est en mouvement. Tout comme Jésus s'est consacré à accomplir la volonté de son Père dans le monde, en réalisant son projet de salut, nous sommes aussi appelés à faire de même, en ne trouvant pas notre sécurité et notre satisfaction dans le monde, mais en entrant soi-même dans le projet de salut de Dieu. Et Dieu est un Dieu qui nous invite. Il nous dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Jésus nous invite à nous joindre à lui dans cette œuvre de salut qu'il est déjà en train de faire. Et cela nous donne une grande confiance et liberté. Mais ce n'est pas immédiat, hein, vous entendrez dans mes témoignages. J'avais aussi un motard qui était voisin avec tout plein de tatouages. Le premier contact avec lui, c'était « Tu sauras, pour moi les églises ça ne sert à rien, il faudrait les raser pour faire des parkings ». C'est que des conneries, excusez-moi, la Bible. Et puis, du moment que tu ne me parles pas de ça, on sera en bon terme. Et puis, des années après, j'ai compris que je devais lui amener une Bible. Facile, hein. Je peux vous dire que je suis entré chez lui, j'ai fait la prière paillasson. Vous connaissez la prière paillasson? C'est « J'entre ici, mais pas sans toi, Jésus ». C'est une prière adressée à Jésus. « J'entre chez lui, mais pas sans toi, Jésus ». Où es-tu au mouvement dans mon monde, hein, c'est ça? Ben, je suis au mouvement dans ce monde, parce que je veux rejoindre cette personne, amène-lui une Bible, c'est ça. Mais après, il y a la prière paillasson, c'est-à-dire, j'entre là où tu m'as appelé d'aller, mais je ne vais pas sans toi, tu me précèdes. Sinon, on serait fou d'y aller, d'accord? C'est un motard, Harley Davidson. Bon, je cours vite aussi. Donc, c'est une question importante. Comment amener ce remède? C'est que Jésus a montré un exemple intéressant par rapport à la prière paillasson, justement. C'est qu'il a donné son fils unique. Mais comment il l'a donné? On s'est habitué à cette phrase, il a donné son fils unique. Alors il y a un indice à droite, ici, à votre gauche. C'est son fils, Jésus, il est né bébé déjà, et il est humain, dans une mangeoire, dans une période délicate politiquement, où sa vie était menacée. Moi, je ne sais pas vous, mais un bébé dans une situation là, ben, c'est quand même un indicatif. Dieu nous a donné un modèle par sa venue sur la terre de comment partager ce remède. Dieu nous a donné ce modèle de comment on doit être en regardant comment il est né. De quelle façon Jésus a été envoyé? Parce que comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Le Père a envoyé le Fils, d'accord? Et puis après il dit, mais comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mais dans ce comme, est-ce qu'on a réfléchi finalement au fait que Jésus était pleinement homme et qu'on peut copier Jésus dans son humanité? Disons, mais en étant pleinement homme, il nous montre comment finalement on peut être témoin. Eh bien, en étant bébé, au départ, dans la fragilité, dans une mangeoire, il est venu sur terre en devenant un être humain, tout en restant Dieu, certes, mais pleinement humain, pleinement Dieu, mais pleinement humain. Et il n'a pas échanger une nature pour l'autre. Il nous a laissé un modèle de comment vivre notre humanité. C'est dans la naissance de Jésus-Christ bébé que nous avons cet exemple. Nous sommes appelés à permettre à Dieu de se révéler dans la faiblesse humaine. Parce qu'il y a une relation entre la faiblesse humaine et la puissance divine. Et c'est ce que Jean nous rappelle dans ce verset. « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. On a été créé pour être tout le temps dépendant de Dieu et pas autosuffisant. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que souvent, je vois que quand je n'ai pas envie d'être témoin, c'est que je dis à Dieu, mais je ne suis pas suffisant. Mais Dieu dit, c'est OK d'être pas suffisant, parce qu'on n'a jamais été appelé à être autosuffisant. On est appelé à dépendre de Dieu et de lui faire confiance avec cette prière paillasson. Hein. Ben, Seigneur, tu es avec moi, parce que tu es avec moi, ça va bien se passer. Mais si je regarde à moi-même et à mes capacités, ça va mal se passer et je ne vais pas y aller. Donc apprendre à dépendre de Dieu, c'est dire, c'est juste, OK Seigneur, sans toi je ne peux rien faire, et go. Comme tu as été envoyé, je me laisse envoyer. Donc c'est aussi une acceptation de se soumettre à la puissance de Dieu. Et donc c'est à la fois prendre conscience de ma faiblesse et en même temps prendre conscience de la puissance de Dieu qui fait que le royaume de Dieu avance, que la vie éternelle est manifestée. Comment je reçois ce remède? C'est la foi. Et ceci, c'est simple. La foi dans le message de Dieu, c'est simple, c'est tellement simple. Crois. Des gens disent, j'aimerais tellement croire. Je dis, ben crois, qu'est-ce qui t'empêche de croire? Prie Dieu dans cette foi qui est en train de naître et de grandir. Prions ensemble. C'est vrai que chaque homme peut sortir du monde et rejoindre le peuple de Dieu en écoutant le message de Jésus et en y répondant avec foi. Cette foi nous ouvre à la vie éternelle et on comprend que c'est l'intention explicite de l'auteur du quatrième évangile, Jean, c'est de permettre à chacun de connaître le chemin de la vie éternelle par la foi en Jésus, le Messie. D'avoir accès à la vie éternelle. La vie éternelle, c'est cette vie en abondance. Et cette vie éternelle, elle a une dimension présente et à venir, parce que la résurrection des morts s'accomplit en deux étapes. La résurrection spirituelle, ce qui est la première étape, qui se réfère à l'expérience présente, c'est maintenant, de la vie éternelle, et puis plus tard, la résurrection des corps. Alors, comment se passe la résurrection spirituelle? C'est une question que Nicodème pose à Jésus, hein, dans le passage de Jean 3. C'est intéressant parce que là, il donne une image. Jésus donne une image en disant, mais c'est comme un vent. Tu ne vois pas où il va et d'où il vient. Tu ne le vois pas, mais tu vois ses effets. C'est ce que Nicodème a de la peine à saisir quand il parle de nouvelle naissance, de vie éternelle. Jésus, il ne parle pas de naissance physique, mais il parle d'une naissance d'un tout autre genre. C'est une naissance qui est opérée par le Saint-Esprit. C'est une renaissance spirituelle. On ne passe pas facilement de la chair à l'esprit, c'est-à-dire de l'existence terrestre, naturelle, au royaume de Dieu. Il faut une intervention surnaturelle, une nouvelle naissance. Et cette émergence du surnaturel, je le vois chaque fois que j'obéis à où Dieu est en mouvement dans mon monde, en y allant avec Jésus, comme avec ce motard, ou après leur donner la Bible, j'ai vu dans ses yeux qu'il était profondément touché dans son cœur. Il y avait presque une émotion. Et en même temps, je voyais physiquement, c'est comme s'il voulait me péter la gueule. Il était touché par le Saint-Esprit. Cet homme était touché par le Saint-Esprit. Dans sa chair, je faisais quelque chose qui était interdit, mais dans son cœur, il était touché par l'Esprit profondément, par l'amour de Dieu. Et ça, j'oublierai jamais. C'est deux choses en même temps. Parce que j'imaginais bien qu'il allait se passer un truc, quoi. Et c'était quelque chose de spirituel. C'était une œuvre de l'Esprit-Saint dont j'étais témoin en direct. Et c'est là que je disais que témoin, c'est défiant, en même temps exaltant, parce qu'on voit l'œuvre de Dieu en direct. Il y avait une intervention surnaturelle, comme un vent, si on veut, et Jésus compare l'action du vent et l'œuvre de l'Esprit. Elles sont invisibles et ne peuvent être repérées que par leurs effets. Alors, j'arrive à la conclusion. J'aimerais vous laisser quelques clés. J'irai rapidement. Il y a déjà adapté notre langage. L'exemple typique, c'est quand on parle de péché, vaut mieux parler, par exemple, du sens du mot péché, qui veut dire rater ce qui manque le but. Le péché, c'est ce qui manque le but. Qu'est-ce que tu en penses? Posez la question. En quoi on manque le but dans cette vie-là? On peut adapter notre langage. Et pourquoi? Ben Jean, il a fait ça dans tout son évangile. Il s'est adressé à des non-juifs. Et dans les synoptiques, il parle beaucoup du royaume de Dieu. Lui, il a dit, mais le royaume de Dieu, ils ne vont rien comprendre, que dalle. Du coup, il dit, on va parler de la vie éternelle, de cette vie en abondance, qui commence maintenant, qu'on peut expérimenter maintenant. Donc il a changé son langage pour que son auditoire puisse comprendre l'évangile. Et nous sommes appelés à faire la même chose. Il l'a fait aussi de manière philosophique, je vous passe ça. On peut en parler après si ça vous intéresse. Donc il y a des clés que j'aimerais vous laisser ici afficher, qui sont, pour le témoignage, pour l'évangélisation, c'est questionner les gens et écouter. C'est demander et recevoir l'amour du Père. C'est accepter de dépendre de Dieu le Père. C'est connaître le message, hein, Jean 3,16. Je l'ai pris pour ça parce que c'est un excellent résumé. Alors moi j'ai le privilège des fois de dire Jean 3,16 lors des enterrements ou des mariages. Mais c'est vrai que quand on proclame ce verset, c'est une puissance. Et moi je vois Dieu à l'œuvre. C'est comme, vous savez, l'esprit qui plane sur les eaux et qui fait une nouvelle création dans le cœur des gens. Et c'est un bon résumé, mais il y a certainement d'autres manières de partager l'évangile. Comment ? Ben, adapter à votre ami, à la personne avec qui vous êtes en contact et au cheminement que vous avez eu avec lui. Et c'est adapter notre langage à la personne. Je sais que vous êtes devant un cours alpha bientôt. Alors, je ne sais pas si vous tremblez, si vous avez l'intention d'inviter quelqu'un. En tout cas, je peux vous dire que ce sera l'occasion d'apprendre à dépendre de Dieu et de vous rappeler que Jésus est toujours avec vous. Si vous avez l'intention d'inviter un contact ou une personne avec qui vous avez une amitié, ou si vous voulez réinvestir dans une amitié avec quelqu'un, ou inviter vos voisins avec l'idée de l'inviter à avec un parcours alpha, parce qu'il s'agit d'une expérience de vie, donc on parle d'un parcours alpha, quelque chose que les gens peuvent expérimenter maintenant, et bien vous allez apprendre à dépendre de Dieu, c'est-à-dire apprendre aussi à reconnaître où Dieu est à l'œuvre dans votre monde à vous, actuellement, pour manifester l'amour de Dieu. Alors ici, j'aimerais vous encourager à vous poser la question où Dieu est en train de travailler dans vos contacts, à développer des vraies amitiés, à leur poser des questions, et inviter la personne à regarder à la personne de Jésus, et puis mettre cette personne au contact avec une parole de vie, et puis l'inviter à venir à un parcours alpha, qu'on pourrait même imaginer comme une espèce de club de lecture, en disant aux gens, fais-toi un avis par toi-même sur qui est Jésus, viens dans mon club de lecture, avec d'autres amis là, fais-toi un avis, t'es intelligent, on va à la source, on va lire les textes ensemble, et puis tu peux te faire un avis sur qui est Jésus, parce que c'est un homme incroyable. Et puis, voilà un peu quelques pistes. Mais en toute chose, je pense que c'est l'occasion à apprendre à dépendre de Dieu et à développer une discipline spirituelle aussi, de reconnaître où Dieu est en mouvement dans mon monde à moi. Et à travers toute situation dans la journée, découvrir que Jésus est en mouvement. Et il y a un autre qui vit en moi, le Saint-Esprit, qui est en train de me parler et de m'inviter à parler à l'autre, à le questionner, à lui partager une parole de vie. Ça demande la foi, c'est vrai. Nous sommes invités à grandir dans la foi toute la vie. Ma seule requête, c'est une prière. Aide-moi maintenant, Seigneur. Restez toujours connecté en vie avec le Christ. Sans lui, je ne peux rien faire. Priez sans cesse. Et cela commence dès qu'on ouvre les yeux le matin. Et ça continue dans la journée. Se rappeler que je suis avec lui. Soyez bénis dans cette démarche ces prochains temps, que vous ayez plein de surprises. Dieu vous surprenne, comme je l'ai été moi-même.